Revue de presse comics avec les nouveautés qu'on va pouvoir se mettre sous la dent au mois de mai. Alors on avait déjà eu un mois d'avril assez riche, donc on pouvait se dire que le mois de mai serait quand même calme. Il y a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent ce mois de mai. On voit quand même que la grande période des crossovers commence à battre de l'aile. DC n'en a pas relancé actuellement. Elle ne semble pas vouloir en remettre un. En tout cas, il ne sera pas en concurrence de War of Kings, puisque War of Kings est quand même bien entamé. Et là, chez DC, on a donc plusieurs projets assez indépendants qui vont se mettre les uns à la suite des autres.
Je crois bien que par rapport à DC, il était effectivement bien temps de recentrer les titres, les familles de héros, parce que c'est quand même le gros chaos depuis un petit moment. Et même le Battle for the Call, je pense que tu as dû en parler ou tu vas en parler.
Alors on en a déjà parlé voilà. Il y a deux mois donc pour les nouveautés. Donc là, Battle for the Call, donc pour ceux qui ne se souviennent plus, c'est donc après cette histoire qui s'appelait Batman Rest in Peace. Sans faire trop de spoilers, dans Batman Rest in Peace, Batman meurt.
Hein. Voilà, c'est pas un gros spoiler, hein, ça va.
C'est pas un méga gros spoiler. Tout le monde le savait depuis belle lurette, on ne vous dira pas comment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il n'y a plus de Batman à Gotham, il y a une place à prendre et que tout le monde la veut. Et donc, il y a plein...
En même temps, on se demande pourquoi tout le monde la veut, parce que c'est quand même un poste super dangereux.
Mais en même temps, ils étaient pleins déjà à être sur ce genre de poste méga dangereux. Et en fait, ils veulent tous la place de numéro 1. Donc, il y a une mini-série en 3 parties, plusieurs one-shots et des mini-séries, puisque tous les titres se sont maintenant arrêtés aux États-Unis. Je pense qu'on reviendra sur Battle for the Call un peu plus tard, déjà parce que pour l'instant rien n'en est encore sorti, et surtout parce que dans le previews du mois prochain, on va avoir le listing complet des 8 séries, puisqu'il y a 8 nouvelles séries qui vont être lancées au mois de juin sur Battle for the Call, et je pense que ça permettra de faire une revue de presse complète. Dans ce qu'on sait déjà, on sait qu'il y aura une série Streets of Gotham par Paul Dini, qui devrait être un concept à mi-chemin entre Gotham Knights et Gotham Central, avec des flics, des super-héros, que des seconds couteaux qui vont faire vivre la ville de Gotham. Et les seules personnes qu'on verra parler du Batman, ce sont des personnes qui ne l'ont jamais connu directement.
D'accord, ouais, une sorte de comment dire de traitement qu'on avait pu voir dans Batman Animated, sur une sorte d'histoire de Dark Knight, quoi.
Voilà.
Tales of Dark Knight, on pourrait dire. Bref, ouais. C'est vrai que donc après donc des crossovers qui ont duré maintenant depuis 3-4 ans, avec des succès vraiment divers et de moins en moins bien ces derniers mois, ces dernières années, il était temps que la DC au moins fasse une pause. Voilà. Donc tu annonces quoi alors pour ce mois qui s'approche ?
Alors la première série, c'est The Last Day of Animal Man.
Mais...
Alors Animal Man, on le connaît, c'était ce personnage qu'on a beaucoup revu depuis 52, qui avait connu son heure de gloire sous les crayons de Morrison, à l'époque avec des couvertures de Brian Bolland. Et donc là on revient sur une mini-série, c'est toujours Brian Bolland aux couvertures, et de manière étonnante la première couverture est un remake d'une de ses anciennes couvertures, c'est Bolland d'après lui-même. Alors c'est Chris Batista qui dessinera, et cette série se passe en 2024, donc en fin de compte à un moment où Animal Man est quand même au moment de prendre sa retraite.
D'accord.
Là où c'est assez étonnant, c'est sur le nom du scénariste. Alors, le scénariste est très connu. Il a fait beaucoup de comics, voici bien des années. On l'avait un peu totalement vu disparaître, puisqu'il s'était surtout consacré à la télévision, où il faisait notamment la série Law and Order. D'accord. Il s'agit de Jerry Conway.
D'accord. Mais...
Donc, retour de Jerry Conway, assez étonnant quand même. Sur cette mini-série en 6 parties qui devrait donc être un peu ce que Marvel nous a beaucoup fait avec les The End, et donc là ce sera le même traitement mais sur le personnage d'Animal Man,
personnage quand même qui est pas super important dans l'univers DC, pourquoi pas,
mais personnage qui depuis 52 n'a jamais été arrêté d'être utilisé, donc il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites sur lui. Il avait fait donc 52, après il s'était retrouvé dans cette fabuleuse merde qui était
Ah oui, Adventures, Condemned to Adventures.
Condemned to Adventures, qui était vraiment pas bon.
Qui était vraiment pas bon, effectivement.
Après, il avait refait d'autres séries cosmiques de Starlin.
Tout à fait, ouais, avec Adam Strange et voilà. Puis l'autre flambeuse, là, Starfire. Et dernièrement, donc, il était dans les derniers numéros de GLA. Pour cette, toute une histoire autour de Vixen et de lui-même, enfin bref.
Voilà. Donc là, on espère revenir sur un truc un peu plus dans les bases du personnage, et on devrait quand même prendre un certain plaisir à lire cette série. La deuxième série, c'est une série dont on nous parle depuis longtemps. Un ou deux ans au moins. C'est Palmiotti et Gray qui l'écrivent, et Amanda Conner qui la dessine.
D'accord.
Après tant de promesses, Power Girl a enfin sa série. Ça te laisse sans voix là.
Bah, c'est surtout que, effectivement, encore une fois, hein, c'est des personnages qui auraient pu avoir un bon traitement, mais voilà, ils sont soit des seconds couteaux, soit surexposés. Voilà, Power Girl, je suis plus sûr qu'il y ait grand chose à dire sur elle, même si au moment des crises, elle a été quand même un personnage central. Donc Power Girl, d'après les derniers développements du monde DC, serait une version alternative et adulte de Supergirl. Voilà, donc la cousine de Kal-El et notre Superman international. Voilà, mais encore une fois, voilà un personnage qui a 10 origines différentes. C'est un peu dommage de continuer à la matraquer comme ça en l'exposant devant les
voilà. Voilà. Donc ces épisodes nous avaient été promis après les JSA Classified, qui était donc un prélude à Final Crisis.
Et tout à fait, oui, je me souviens, effectivement.
Qui était plutôt bon quand même sur l'utilisation de ces faux souvenirs, qui lui en avait recréé même des autres très intéressants en faisant l'Andromeda de la Legion.
Tout à fait.
Ça, moi, ça m'avait assez fait rire. Là, quand même, dans le style, on va nous faire un truc vachement nouveau. On nous annonce qu'elle se crée une identité secrète et qu'elle va essayer de mener une vie normale.
Avec sa poitrine, elle y arrivera jamais.
Si, elle est stripteaseuse.
Ok.
Enfin, voilà, c'est un peu décevant quand même sur le traitement, parce que, enfin, les super-héroïnes qui se créent des identités terrestres tout d'un coup, alors qu'elles n'en ont jamais eu besoin, on nous l'a déjà fait à Wonder Woman et c'était pas vraiment un succès. Et là.
Et donc, du coup, pourquoi ça a attiré ton attention? Le fait que ce soit Palmiotti, que ce soit.
Ben, Palmiotti et Gray, c'est quand même des auteurs qui ont fait beaucoup de choses bonnes. Mmh.
Je conseille quand même le 21 Down qui est jamais paru en France, qui était quand même vraiment sympa.
Mais qui a jamais été achevé non plus.
Ouais. C'est dommage parce que c'était vraiment pas mal. Hein.
Puisqu'ils avaient lancé une deuxième série. Enfin, ils avaient prévu une deuxième série chez White Storm qui n'a jamais été faite. Ils sont quand même à la tête de Jonah Hex.
Tout à fait.
Qui, dans son genre, arrive quand même à avoir une longévité qui étonne tout le monde. Donc là, les revoilà. Ils avaient quand même travaillé ensemble sur la mini-série Terra également. Qui pareil avait été très en retard et dont personne n'avait rien à foutre.
L'intérêt est quand même super limité. Je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas dire, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il ait fait passer parler de lui dans le box-office américain.
Ah non, c'est
en tout
clair.
Cas.
Ouais. Donc juste, quand même, il y a deux couvertures, une d'Amanda Conner et une de Adam Hughes. On conseillera quand même de prendre la Adam Hughes.
Oui, plutôt, oui.
Voilà. Donc bon, on a beau aimer Amanda Conner, on vous conseillera plutôt de lire The Pro si vous voulez vraiment du bon Conner. Le dernier titre, et qui là m'a vraiment marqué, c'est un titre Vertigo. Pourquoi est-ce qu'il est marquant? D'abord par son prix. Il est lancé pour 1$ avec un 40 pages.
Mm-hmm, 1$ 40 pages, oui, ça va, oui, le prix le plus bas du marché, oui.
Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui déjà montre que Vertigo a vraiment une envie de soutenir certains titres, dont celui-là. Ensuite, ses auteurs. Mike Carey, Peter Gross.
Mm-hmm. Oui, ça se barre bien, oui, effectivement.
Voilà. Ça s'appelle The Unwritten. Et ça nous parle de Tommy Taylor, donc, qui est un scénariste de romans à succès. Mettons quelqu'un qui écrirait un truc du style Harry Potter au hasard. Et après la sortie du dernier livre, le monsieur disparaît. Et tout d'un coup, c'est son fils qui commence à faire la promotion des livres de son père, puisque l'auteur a disparu. Donc, pour continuer le marketing, son fils est là. Mais commence à intervenir le doute quand le fils avait été le modèle du héros des bouquins. et que tout d'un coup on commence à se demander si ce n'est pas le héros qui s'est incarné pour faire la promotion du livre. Donc série continue de Vertigo dont on attend quand même beaucoup de choses. Je pense que c'est une des choses les plus excitantes qu'on nous a annoncé chez Vertigo depuis bien longtemps. Et on est quand même sur un titre qui pourrait devenir peut-être un des nouveaux étendards de Vertigo, dans la mesure où quand même White the Last Man s'est arrêté, où 100 Bullets s'est arrêté, et où il ne leur reste aujourd'hui plus que Fables et Hellblazer pour vraiment porter haut les couleurs de l'éditeur.
Tout à fait d'accord avec toi.
Voilà. Donc là, c'était effectivement les trois séries chez DC qui avaient retenu mon attention, avec quand même un gros plus pour Zone Vitan, qui devrait être une vraie bonne surprise.
Alors, est-ce que c'est une opération que la Vertigo va répéter, non, ce 40 pages, 1$?
Ils vont lancer plusieurs pages en 40 pages, 1$, plusieurs séries en 40 pages, 1$.
Donc pour le numéro 1 à chaque fois hein.
Pas toujours.
Ah.
Pas toujours, puisque par exemple sur Madame Xanadu, ils ont prévu d'aider la série. Le premier TPB qui devrait faire 8 numéros ne coûtera que 9,99€. Ce qui est quand même un peu
très bas, oui, effectivement.
La moitié du prix normal.
Ah, oui, tout à fait.
Et ils relancent donc le deuxième arc le même mois avec un numéro 1$.
D'accord.
Donc il y a quand même effectivement des efforts non négligeables qui sont faits par DC à ce niveau-là. Il y a un an, Marvel nous vendait une de ses nouvelles séries X, les Young X-Men,
oui.
À 99% sur le nom de son dessinateur, Yannick Paquette.
Tout à fait.
Et on a été un peu dessus.
De toute façon, les titres X, depuis, je dirais, House of M, sont en perte de vitesse. Il ne se passe plus grand-chose d'intéressant.
Voilà.
Même Messiah Complex n'était pas à se réveiller, quoi.
Voilà. Guggenheim est le premier à dire qu'effectivement, c'était pas forcément ce qu'il espérait en faire. Il n'est pas non plus très dithyrambique sur la série qu'il a écrit lui-même. Et là, donc, c'est Zeb Wells qui va le remplacer sur un nouveau titre mutant.
Comme ça en avait besoin. D'accord.
Alors, quand même, on revient aux fondamentaux. Quand on sait que les nouveautés ne marchent plus, on se dit on va revenir aux bases.
Ah oui, je sais de quoi tu vas parler. Hein, c'est terrible.
Si je te dis que c'est Bob McLeod qui fait la couverture
variante.
Ouais,
ouais, j'en ai entendu parler. Oui, c'est terrible.
Pourquoi c'est terrible?
Parce que ça va être encore un truc qui va repartir au début, une nouvelle origine, tout ça, c'est chiant.
Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire des nouvelles origines quand même sur ces personnages qui sont donc Cannonball, Danny Moonstar, Karma, Sunspot, Magma et Magic.
Elle était pas morte? Non, elle est revenue, elle est pas contente.
Elle est déjà ressuscitée. Ils nous ont pas ressuscité Cypher et ils nous ont pas ramené Warlock qui était déjà dans la série. On aurait pu...
Oui, mais en même temps, Warlock, il est de nouveau dans l'univers Marvel. Enfin bref.
Oui, voilà.
Donc, de quoi on parle? On parle donc d'une série New Mutants. Donc,
exactement.
Donc, c'est New Mutants.
Voilà, donc c'est la troisième, quatrième série même.
Voilà, quatrième série.
Il y avait une mini-série en trois, et puis il y avait eu New X-Men Academics, qui pendant un peu de temps s'était appelé New X-Men.
Voilà. Alors, de quoi on parle là? On parle tout simplement, historiquement, de la première série dérivée X-Men. Puisque effectivement vous connaissez tous la série X-Men avec Wolverine, Diablo, Tornade, Cyclope, Angel et les autres. Il faut savoir donc qu'aux alentours des années 80, Chris Claremont, qui était le scénariste historique des X-Men, avait eu l'idée de faire une série dérivée, donc New Mutants, avec des jeunes gens hein, qui avaient entre 15 et 16 ans et 17 ans, qui intégraient donc la Xavier High School for Gifted Humans ou un truc comme ça. Donc pour être la nouvelle génération des X-Men. Alors c'était pas vraiment passé comme ça, hein, et ces personnages étaient un peu perdus. Enfin, on n'avait pas trop su transformer l'essai. En tout cas, bon, ça n'a pas été non plus une expérience mirobolante, sauf qu'effectivement, cette première équipe donc dérivée des X-Men est restée quand même chère au cœur des gens qui l'ont lu à l'époque, parce que c'est des personnages quand même bien sympathiques.
Voilà, donc la série avait duré 100 numéros à l'origine. Elle avait changé de nom pour s'appeler X-Force, mais ça restait la même équipe. Et jusqu'à ce que le Milligan vienne foutre son nez dedans. Donc il y a eu 115 numéros, je crois, de X-Force.
Voilà, donc, terminant par X-Statix, enfin bref.
Voilà.
Et donc du coup, ces personnages ont subi diverses fortunes. Il y en a quand même quelques-uns qui sont morts.
Cannonball, pour parler de ceux qui sont là, est quand même devenu un X-Men pendant un certain temps où il a jamais fait effectivement belle figure. Danny Moonstar a perdu ses pouvoirs et s'est fait virer comme une malpropre de l'école Xavier. Karma avait retrouvé son frère et sa sœur. Elle travaille toujours d'ailleurs à l'école Xavier jusqu'à Mechia Complex. Sunspot dirigeait désormais.
Faisait partie donc du club des damnés, qui était le grand ennemi des X-Men.
Magma s'était retrouvé dans les camps des X-Men suite à House of M, puisque son fiancé était décédé brûlé dans un volcan en perdant ses pouvoirs. Et Magic, donc, qui était
morte
est revenue récemment, et donc là elle reprend son rôle dans l'équipe.
Voilà, donc c'est des personnages qui sont quand même bien abîmés par la vie que nous retrouvons. Les dernières tentatives donc d'utilisation des personnages étaient pas mirobolantes. Donc des fois on se dit, des fois il faudrait peut-être pas non plus s'acharner comme ça sur des personnages qui n'ont pas demandé autant de méchanceté.
Voilà. Donc surtout que là c'est un peu s'acharner, parce que dès le premier arc, ils vont combattre non moins que Légion.
Voilà, rien que ça, c'est la fête. Donc, et savoir que Bob MacLeod.
Bob l'éponge.
MacLeod, donc.
Qui était le dessinateur d'origine, fait une couverture variante, sachant qu'il y a deux couvertures standards, une de Adam Kubert et une de Alex Ross. On parle quand même du dessinateur. C'est Diocian Neves qu'on avait vu notamment sur les. Une histoire courte de X-Men Worlds Apart.
Voilà, donc je suis sceptique, moi. J'étais assez déçu par les X-Men dernièrement, donc je sais pas si là effectivement ça va être la série qui va redémarrer.
On va voir, mais moi ça fait, enfin, ça me donne envie de le lire. Quand même, il y a une série X qui est très bonne actuellement. Mm-hmm. C'est Captain Britain and the MI-13.
Ouais, t'es vraiment gentil avec eux quand même là.
Moi, je l'aime beaucoup.
Oui, mais tu peux. C'est
qui a pris la suite de New Excalibur.
Oui, qui est bien meilleur que New Excalibur, effectivement.
Voilà. Et qui revient aussi sur ce qu'on avait pu voir dans la série Wisdom, puisqu'on reprend notamment les personnages introduits dans Wisdom par Paul Cornell, donc qui est le scénariste de la série. Et ça tombe bien qu'on parle de Paul Cornell.
Bien, j'admire. Ah, c'est beau.
Parce que c'est le scénariste de la prochaine série dont je voulais vous parler.
Ouais, mais encore.
Il va travailler avec Mark Brooks.
C'est qui ça?
Alors Mark Brooks, c'est un dessinateur qui avait fait du Wildstorm, entre autres, qui a fait beaucoup de choses du moyen au pas bon. C'est pas le grand dessinateur qu'on pouvait espérer. Par contre, il revient sur un concept de Dark Reign. Pour la première fois, les Young Avengers vont avoir une série limité par ce scénariste qui avait juste fait un épisode au préalable, sauf que le nom des Young Avengers dedans, c'est The Melter, The Executioner, The Enchantress, Egghead, Big Zero et Coat of Arms. Donc vous l'avez compris, que des personnages tout nouveaux. Les Vengeurs ont changé. L'équipe officielle des Vengeurs, c'est maintenant la série Dark Avenger, qui ressemble plus aux Thunderbolts.
Oui, qu'autre chose en fait.
Qu'aux Vengeurs. Et donc là, on est plus dans du Young Thunderbolts en fait.
D'accord, ok. Donc c'est des gens très très méchants qui vont tuer plein de gens pour des raisons d'État et s'amuser en faisant des coulées d'entrailles.
Voilà. Sauf qu'il y a quand même d'autres Young Avengers qui existent.
Ils ne sont pas contents.
Et ils veulent récupérer le nom.
D'accord.
Ils avaient qu'à poser le copyright.
Voilà, c'est Battles of the Call, mais pour les Young Avengers, en fait.
Un peu, ouais. Alors, on en parle quand même, parce que c'est toujours rare de revoir les Young Avengers, et qu'on espère toujours qu'enfin, un jour, ils nous lancent une série continue sur ces personnages qui ont vraiment un gros potentiel, et que Marvel n'ose pas utiliser de peur de se mettre mal avec le créateur, qui, quand même, est pas non plus le scénariste le plus prolifique du siècle, et qui n'y reviendra probablement jamais. Donc on attend quand même qu'ils osent la série.
Après tout, ils ont osé bien d'autres choses. Pourquoi pas ça?
Exactement, il y a des choses bien pires qu'on a osé nous faire par le passé. Et donc ça, c'est une mini-série en 5 parties, comme l'autre mini-série dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui fait suite à une série que j'ai déjà chroniquée ici. C'est toujours une série Dark Reign. Et c'est The Hood.
D'accord, donc c'est ça, donc le personnage de The Hood, qui est ce sort de super méchant doué d'une cape qui lui permet de se téléporter, qui reprend du service puisqu'il avait déjà eu droit à une mini-série chez Max, me
chez
semble-t-il.
Max. On peut le présenter comme le loser ultime.
Voilà, et en fait, pas du tout, a priori, notre ami Bendis, Michael Bendis, qui est un peu le grand maître des histoires dans l'univers Marvel en ce moment, le grand scénariste, beaucoup utilisé, surutilisé peut-être, donc c'est pris d'amour pour ce personnage. Et quand Bendis aime un personnage, il l'utilise à toutes les sauces et dans tous ses titres.
Voilà.
Voilà. Et donc The Hood revient et il est toujours pas content.
Voilà. Donc il fait maintenant partie de ce qu'on appelle la cabale.
La cabale.
Ce qui est un peu les Dark Illuminati en gros. Donc on l'a compris, hein, l'ordre mondial aux États-Unis a été un peu bouleversé. Par le dernier crossover, et donc les méchants ont le pouvoir.
Quand voilà, en gros, les méchants ont le pouvoir et ils aiment l'utiliser.
Voilà. Donc, c'est quand même toujours Kyle Lutz qui va le dessiner.
Il aime vraiment ce personnage, quand même.
C'est ben, lui qui l'avait créé.
Ah, oui,
donc,
tout à fait,
il revient dessus. Il avait comme fait des merveilles sur la première série. Et c'est écrit par Jeff Parker, scénariste de Agents of Atlas.
D'accord. Oh, sympathique.
Voilà. Donc Agent of Atlas qui a été relancé aussi en série continue récemment chez Marvel avec des critiques plutôt bonnes. Là encore, ça a étonné beaucoup de monde. Alors on va pas aller trop loin effectivement dans le récit effectivement sur ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est un peu spoilant pour tout ce qui va se passer dans les semaines à venir pour ceux qui lisent en français. Mais quand même, The Hood qui est quand même vraiment une série qui est à lire au moins pour la première, et on ne doute pas qu'on devrait se régaler quand même sur la deuxième.
Alors, et The Hood va faire partie d'un autre crossover cet été ou ça va faire partie de War of King?
Alors non, là c'est du Dark Reign uniquement.
Donc Dark Reign, voilà, tout
Dark
l'été Rain, en fait.
Donc les épilogues à Secret Invasion.
Tout à fait.
Donc il bon, y a beaucoup de séries qui sont marquées Dark Reign. Certaines, on se demande un peu pourquoi. Parce qu'une série comme War Machine, j'ai pas toujours vu l'intérêt de l'appeler Dark Reign. Mais bon, c'est quand même un truc qui devrait donner du plaisir à lire. Donc là encore, une série qui devrait avoir son intérêt à se lire. Moi, sur les trois, j'aurais quand même une tendance à privilégier New Mutants. Mais je sais que c'est parce que je suis un geek. J'admets.
Il était temps.
Alors, chez Image, maintenant, on a aussi des nouveautés. Alors, une qui n'est pas une vraie nouveauté, mais qui est un cocorico, c'est un comics français qui ressort, qui sort enfin aux États-Unis. Il avait été annoncé, puis annulé, mais il revient. C'est Spawn, Architects of Fear. Donc, la deuxième série histoire écrite par Alexis Briclot.
D'accord, oui, ça fait un petit moment donc.
Qui était sortie en France depuis longtemps, elle avait été annoncée et pas sollicitée. Bon, faut savoir quand même que la première histoire, Spawn Simony, quand on faisait le rapport, avait quand même des ventes, un résultat de meilleur à l'époque que les Spawn de la série continue.
D'accord.
Ce qui était quand même un gros succès pour ce premier opus. Donc là, aucun doute à ce que ce deuxième puisse faire un succès aussi, même si bon, Spawn est un peu revenu sur le vent de la scène ces derniers temps avec Portage Show dont je vous parlais il y a 15 jours et qui a quand même fait qui fait quand même toujours un très beau boulot sur cette série. Donc voilà, ça c'est donc Spawn Architect of Fear. Vous pouvez le retrouver évidemment en français. C'était sorti chez Delcourt, je crois, déjà.
Ça remonte à tellement longtemps, je ne me souviens plus.
Je ne crois pas que c'était chez Semic.
Je pouvais pas
ça
dire.
Ça avait dû être commencé par Semic, mais de toute façon, ça avait été... Je pense pas que c'était fini chez Semic. On vérifiera. Mais série donc, qui est déjà sortie en France depuis longtemps et qui sort enfin aux États-Unis. L'autre événement qui m'a marqué, c'est Olympus. Donc Marvel met en avant ce mois-ci. Alors c'est pas à proprement le nom des auteurs qui va vous dire
quelque chose. Tu reviens sur Marvel en fait.
Non, chez Image.
D'accord, t'as dit Marvel, excuse-moi.
Excuse-moi. Lapsus. Non, Olympus c'est bien du Image.
Ouais.
Ça n'a rien à voir avec la série qu'on avait eue chez les Humanoïdes Associés, qui elle devrait... était je sais pas si elle était sortie chez DC ou si elle avait été annulée.
Non, elle n'est pas sortie chez DC. Hein.
Voilà, donc elle ressortira dans ce cas-là probablement chez Devil's Due, qui a maintenant tous les droits des Humano et qui sort actuellement Je suis Légion.
Tout à fait.
Donc là, c'est Nathan Edmondson, pardon, qui scénarise et Christian Ward qui dessine.
D'accord.
Donc deux petits jeunes. En gros, le concept, c'est qu'il y a 3000 ans, Zeus a donné l'immortalité à deux frères et qui depuis continue à bosser pour lui.
D'accord, long boulot.
Voilà. Donc on va voir quelque chose qui, contrairement à ce qu'on peut penser, a l'air assez urbain. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai vu les deux couvertures quand même de Christian Ward et Tommy Lee Edwards. Mm-hmm. Eh bien, je suis pas sûr de préférer Tommy Lee Edwards. Le dessinateur est quand même très bon.
D'accord.
Et je pense qu'on devrait vraiment prendre du plaisir à lire cette série qui sortira donc chez Image à partir du mois de mai. Et voilà, donc j'ai fait que deux titres chez Image, je vais me rattraper en faisant quatre chez les Indés. Le premier titre, il est écrit par Léa Moore.
Ouais, ça s'annonce mal, hein. Moi je dis tout de suite.
La fille d'Alan.
Ah, d'accord, ouais.
C'est John Rapion qui co-scénarise avec elle et Aaron Campbell qui écrit avec une couverture de John Cassaday. Ça sort chez Dynamite et je voulais en parler parce que Johan serait là, il sauterait au plafond.
Ouais, c'est tout qu'à Sherlock Holmes peut-être.
Ça s'appelle effectivement Sherlock Holmes.
Ouais, jusque-là tout va bien.
Et le premier arc est sur le procès de Sherlock Holmes.
Que s'est-il passé? Qu'a-t-il fait? Il a tué quelqu'un?
Voilà. Donc, oh non, je pense pas. Enfin, ils vont pas nous casser le personnage. Mais donc, Dynamite se relance donc sur les personnages littéraires après avoir énormément travaillé sur tous les personnages de la télévision et des vieux comics. Il lance aussi ce mois-ci une série Buck Rogers.
Rien ne les arrête.
J'aime bien le petit sourire d'Alain. C'est pas très radiophonique, je suis désolé pour vous, mais il est comment... Voilà. Donc 32 pages, 3,50, Sherlock Holmes. Je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler quand même aujourd'hui. L'autre, le deuxième titre du jour, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Alain.
Oui, oui, oui.
Puisqu'il s'agit d'un TPB, d'une série qui l'a beaucoup marqué. Il s'agit de Rest, une série de Mark Powers et Sean McManus, dont les couvertures sont de Tim Sale et qui avait été co-inventé par Milo Ventimiglia.
Qui c'est, vous allez me dire?
Qui est l'acteur qui joue Petrelli,
Peter Petrelli
dans la série Heroes.
Tout à fait.
Et donc il avait relancé plusieurs concepts de comics au départ. Et là c'est le premier donc qui est sorti chez Devil's Due. Donc, c'est quoi le concept de Rest?
Alors, le concept de Rest, hein, c'est un récit d'anticipation. En gros, un jour, une société arrive à inventer une puce qui permet aux gens de ne plus avoir à dormir, tout en conservant la santé mentale et en tout cas l'énergie qui caractérisait dans l'état de veille. Et donc, du coup, pour ce personnage qui au départ est un peu un loser, qui va se retrouver doté de cette puce, tout va changer. Des mondes complètement insoupçonnés vont s'ouvrir à lui, mais en fait, on sent tout de suite qu'il va y avoir un petit souci dans le truc. Parce que effectivement déjà l'expérience auquel il se prête est pas tout à fait bénigne, hein, donc il va y avoir des effets un peu à long terme. Et puis surtout c'est un comics qui réfléchit sur cette idée de quelque chose qui ferait passer aux gens l'envie de dormir. C'est-à-dire voilà, vous seriez éveillé 24 heures sur 24 en sachant que dans notre vie on passe un tiers de notre vie à dormir. Qu'est-ce qui se passe si effectivement ce tiers de vie à dormir vous l'avez totalement disponible? Et là les choses changent. C'est vraiment c'est un très bon concept SF que j'avais pas vu auparavant. C'est bien traité. Donc j'attends de voir la fin, hein, pour voir comment ça va se députer tout ça. Mais en tout cas les deux premiers numéros que je lis m'ont plutôt enthousiasmé pour l'aspect art science en fait. Et l'aspect aussi, on balance pas simplement un concept comme ça, on réfléchit à l'impact que ça va avoir dans la vie du personnage.
Voilà, donc j'avais aussi lu le premier, c'est quand même du bon Sean McManus, qui est un dessinateur qui est quand même assez rare.
Tout à fait.
Qui revient un peu ces derniers temps, enfin un peu
Il n'a jamais été très très
prolifique. Aquaman, Sword of Atlantis.
Ouais, il n'a jamais été très prolifique quand même.
Voilà, non, c'est clair. On l'avait surtout. Enfin, en tant que Français, on a surtout un souvenir de ses Omega Men. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le dessinateur le plus prolifique du marché. On en est bien d'accord. Et donc, enfin, j'avais deux séries dont je voulais vous parler, qui sont cette fois-ci chez Boom Studio, qui continue à lancer beaucoup de projets maintenant que le marché se calme un peu. Le premier, c'est The Unknown, qui est le retour donc, de Mark Waid au scénario sur cette série.
Alors Mark Waid, c'est un auteur qu'on a beaucoup vu au milieu des années 90. Il avait fait beaucoup de choses, surtout la série Flash qui l'a vraiment satellisé pendant un petit moment. C'est aussi lui qui a travaillé sur Marvels, qui est vraiment une très belle réussite. Et effectivement, il était parti chez Boom Studio pour non plus tellement être scénariste, mais être éditeur. Voilà. Et il faut avouer qu'il a lancé de très beaux projets.
Voilà. Un des derniers grands projets qu'il avait lancé, on en a eu que la moitié en France, mais c'était une excellente série qui est sortie en Semic Book et qui s'appelait Empire.
Tout à fait, oui.
Qui est en niveau, pareil, politique, super-héros politique, allait quand même très loin. Et on avait parlé le mois dernier de sa nouvelle série, Irremediable, donc qui était sur une sorte de Superman qui décide d'aller du côté obscur. Et donc de devenir super vilain parce que c'est plus rentable.
C'est toujours le problème avec les voilà. Superman.
Donc là, sur cette série, donc The Unknown, on est sur l'histoire de Catherine Halligan, qui est donc le détective plus rêvé, le plus célèbre du monde. Donc, série qui devrait être quand même assez classique dans la forme. Mais bon, Mark Waid est quand même un scénariste aguerri. Et à n'en pas douter, on devrait quand même pouvoir prendre du plaisir à lire cette série. Et l'autre série dont je voulais vous parler, toujours chez Boom, c'est une mini-série par Marc Sable et Julian Totino Tedesco, qui est The Unthinkable. Décidément, ils adorent tout ce qui commence par Un chez Boom, je ne sais pas pourquoi. Et donc, là, on est sur une agence du gouvernement américain dont le boulot est de prévoir l'impensable.
En gros boulot.
Voilà. En gros, c'est une cellule qui a été montée après le 11 septembre et à qui on demande de vérifier tout ce qui peut se passer pour éviter qu'un nouveau 11 septembre se produise. Et donc... Le petit souci commence au début de cette série quand tous les membres de cette agence sont enlevés les uns après les autres. Parce qu'évidemment, on se demande où sont les copains et on se demande qui a aussi intérêt à les faire disparaître et ce qui va se menacer derrière, se profiler pardon, derrière comme menace. Donc le concept est là aussi assez original.
Faut voir si ça tient.
Sur le fait effectivement de ce genre d'agence. Alors voilà, les experts de la CIA, les NCIS des services secrets, on va voir ce que ça va nous donner. Excusez-moi. Donc c'était déjà pas mal sur cette revue de presse. Un mois assez calme, il n'y a pas de grands événements. Les grands événements, on y reviendra en juin évidemment avec l'après Battle for the Call. Avec donc, on l'avait dit tout de suite, cette série Street of Gotham. Je n'ai pas parlé non plus des autres séries. Detective Comics deviendra donc une série Batwoman, dessinée par G.H. Williamsui.
Bien.
Voilà. Et Paul Dini lance une autre série sur les sirènes de Gotham.
Les sirènes de Gotham.
Avec en gros une série sur un trio. Catwoman, Harley Quinn
et Poison Ivy, non ?
Et Poison Ivy.
C'est bizarre, je m'y attendais.
Alors là, on nous promet quand même un traitement plus dark que ce qu'il avait fait jusqu'ici, puisqu'on n'est pas dans un univers animated.
Ouais, c'est vrai qu'il y a. Bon, bref, on verra. En tout cas, Paul Dini a fait un très bon boulot.
Et bon, il y a une série Batman et Robin par Morrison, mais dont on ne sait rien.
Ah oui, mais c'est même pas sûr que Morrison sera là d'ici la fin. Donc voilà, c'est. Faut attendre, on va voir ce que ça donne. De toute façon, je signale aussi qu'en français, dernièrement, est sorti plein de choses en comics franco-belge. Enfin, en comics, pardon, oula, franco-belge, c'est n'importe quoi. En adaptation française de comics, il y a bien sûr donc, les Watchmen qui sont sortis à 15€ et à 30€. Donc c'était le moment idéal quand même pour les lire.
Et c'était parce qu'a priori il n'y en a plus.
Voilà. À 30€, il y en a encore. Il y a le Joker de Azzarello qui est sorti. Donc aussi une lecture, je pense, indispensable. Ainsi que le Deathblow, Batman Deathblow, qui est sorti aussi de Bermelinjo.
Bermejo.
Voilà. Donc des sorties plutôt sympathiques. Donc à voir.
Voilà. Et donc sur la série, la première dont on avait parlé, sur Gotham, Street of Gotham, j'ai dit que c'était Dini, c'est Kamen Guyen qui la dessine.
Voilà, donc ça peut être en tout cas beau à voir.